Et par actualité. Nous sommes le mercredi 22 février. Il me fait plaisir de vous accueillir à l'émission Les Paractualités, animée par Clotilde Seil, avec les titres du jour. Il est accusé du meurtre de sa femme qui vivait avec la maladie d'Alzheimer. Caroline Bisson, athlète paralympique et ambassadrice pour les jeunes. Stationnement pour handicapés, une mère de Saint-Constant déplore le manque de civisme. Et puis l'église de Lac aux Saumons se transforme en centre communautaire accessible à tous. À Ottawa et à Gatineau, c'est un hiver difficile pour les personnes à mobilité réduite. Et Handicap International dresse le bilan de ses 20 ans au Sénégal. Deux entrevues encore aujourd'hui avec Cynthia Hamel-Gamache, porte-parole de la campagne Porte-clés des amputés de guerre, et l'association des parents pour la déficience intellectuelle et des troubles envahissants du comportement, autrement dit l'ABDITED. Je reçois de cette association Isabelle Mollier au sujet d'un nouvel atelier offert aux parents. Il s'appelle Michel Cadotte, peut-on lire sur le site de ici radiocanada.ca. Il a 55 ans, il a comparu au palais de justice de Montréal pour être accusé du meurtre non prémédité de sa conjointe Jocelyne Lisotte, 60 ans, une résidente du centre d'hébergement Émilie Gamelin dans le quartier Centre-Sud. Selon des informations obtenues par Radio-Canada, il l'aurait tué par compassion pour mettre fin à ses souffrances. Sans faire de commentaires sur cet aspect de l'histoire, l'avocate de l'aide juridique qui représente Monsieur Cadotte a indiqué qu'il appréciait le soutien que lui donne sa belle famille, dont certains membres étaient présents au palais de justice. Ils comprennent ce que vit mon client, a-t-elle dit. Michel Cadotte, qui souffre de problèmes cardiaques et n'aurait pas pris ses médicaments depuis plusieurs jours, a d'ailleurs été envoyé à l'infirmerie. Il reviendra en cours le 17 mars prochain. Il lui est interdit de communiquer avec 4 personnes, soit le frère de sa défunte épouse et 3 hommes, qui seraient les enfants de cette dernière. La famille aurait demandé l'aide médicale à mourir, mais elle lui aurait été refusée parce que la résidente n'était pas en mesure de donner un consentement éclairé. Selon le neveu de M. Cadotte, ce dernier aurait été très isolé dans les derniers moments. Il était en couple depuis longtemps et rendait visite tous les jours à sa conjointe. Il aurait même pris des cours pour connaître les meilleurs soins à lui donner. Les gens rencontrés en matinée au centre Émilie Gamelin, dont plusieurs connaissaient le conjoint, se sont dit attristés et touchés par ce qui s'est passé. C'est un article qui a été rédigé avec les informations de Karine Bastien et Geneviève Garon. Ici Radio-Canada, Ottawa, Gatineau, nous parle de Caroline Bisson, athlète paralympique et ambassadrice pour les jeunes, d'après un texte de Kim Vallière, qui nous dit que rien ne laissait présager le destin qu'a connu Caroline Bisson lorsqu'elle arpentait les couloirs de l'école de la Salle d'Ottawa dans les années 90. À l'époque, elle était membre du conseil scolaire et participait activement à la vie étudiante. La vie lui réservait toutefois quelques épreuves qui l'ont menée aux Jeux paralympiques. Elle est maintenant de retour à son école secondaire, mais dans un tout nouveau rôle. Caroline Bisson a été nommée ambassadrice pour le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, le CPO. Les élèves pourront interagir avec elle et profiter de sa présence régulière dans les écoles au cours de la prochaine année. « Je suis ici pour inspirer les élèves et partager les leçons que j'ai apprises de mon parcours, autant personnel que sportif », explique la native d'Ottawa. Le sport a toujours été présent dans sa vie, mais il occupe un rôle primordial depuis les amputations en 2009 de son épaule, de sa clavicule et de son bras gauche, conséquence d'un cancer des os. Le fait de bouger et d'être en nature, ça a été une façon de reconnecter avec ce nouveau corps que j'habitais. Caroline Bisson tentera cette année de se qualifier pour les deuxièmes Jeux, ses deuxièmes Jeux paralympiques. Elle a participé à 4 épreuves aux Jeux de Sotchi en 2014 en ski de fond et en biathlon. Son meilleur résultat a été une 11e position au 10e kilomètre de biathlon. La fondeuse qui s'envolera bientôt pour la Corée du Sud pour participer à l'épreuve test des Jeux paralympiques. La première étape vers sa qualification, elle vise d'abord une participation aux compétitions de ski de fond et décidera par la suite si elle tente sa chance pour le biathlon. Les élèves du CPO risquent d'être aux premières loges à chacune des étapes en chemin vers les Jeux de Pyeongchang. « C'est une campagne importante, celle des porte-clés des amputés de guerre. Je dois dire que je suis ça, moi, depuis quelques années et que ça m'a déjà été utile, au moins une fois. C'est vraiment très important et j'ai au bout du fil Cynthia Hamel Gamache qui en est la porte-parole. Bonjour, Madame Hamel Gamache.
Bonjour.
Alors, je suis ravie de vous parler. On est donc en pleine campagne pour les porte-clés.
Oui,
hein, ça fait longtemps que ça existe, hein?
Oui, en effet. Ben, en fait, l'Association des amputés de guerre en elle-même existe depuis 1918.
Oui.
Mais le service des plates porte-clés a été créé après la Deuxième Guerre mondiale, en 1946, pour donner, en fait, de l'emploi là, aux vétérans amputés qui revenaient de la Deuxième Guerre mondiale et offrir en même temps un service efficace aux Canadiens.
Et vous, Cynthia Hamel Gamache, vous êtes arrivée là comment, pourquoi?
Vous voulez dire...
En tant que porte-parole, vous êtes
oui.
impliquée...
En fait, moi, je suis amputée de naissance de la jambe droite ainsi que du pied gauche. Donc, je fais partie de l'Association des amputés de guerre pour le programme des enfants amputés depuis mon plus jeune âge. Le programme s'appelle Les Vainqueurs.
Mm-hmm.
Donc, aujourd'hui, je redonne ce qu'on m'a donné au travers des années. Donc, force des choses, mes études m'ont amenée à travailler comme agent de communication aux amputés de guerre.
Ah, c'est fantastique ça. Et j'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu de ce que vous avez reçu justement des amputés de guerre pour avoir envie de leur redonner autant. Cynthia.
Oui, bien sûr. Mais en fait, l'Association des amputés de guerre a créé en 1970, vers les années 70, un programme pour enfants amputés qu'on appelle les vainqueurs, comme je disais en entrée de jeu. Mais en fait, ce programme-là aide vraiment les familles ainsi que les enfants amputés, parce qu'il faut dire qu'un enfant amputé peut changer entre 2 et 3 fois de prothèse par année. Donc, ça amène des coûts faramineux, c'est certain.
Par année?
Par année, oui, bien, dû à la croissance.
Ah là là!
Il faut que ça soit changé souvent, ces prothèses-là. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide vraiment du point de vue financier. On soulage les familles de ce point de vue-là. Mais aussi, on aide vraiment du point de vue émotionnel. On fait des séminaires régionaux à chaque année. Donc, les familles peuvent se rencontrer entre elles, échanger sur le sujet de l'amputation, sortir de l'isolement aussi, parce que parfois, ça peut être difficile en tant qu'enfant amputé, mais aussi pour les familles, de tout comprendre ce nouveau monde-là qui est la prothétique, qui est l'amputation. Donc, on aide vraiment de ces deux points de vue-là. Là, pour les enfants amputés, il faut dire aussi qu'on a un programme pour les adultes. Donc, on aide vraiment tous les amputés canadiens.
Et vous lancez donc de nouveau la campagne des plaques porte-clés. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'il y a des gens qui ne savent pas de quoi on parle. Voulez-vous nous l'expliquer, s'il vous plaît, Cynthia?
Oui, bien sûr. Ben, en fait, les plaques porte-clés est un service qui permet aux gens de retrouver leurs clés, pas seulement leurs clés de voiture, mais toutes les clés qu'ils ont à leur disposition. En fait, on peut juste mettre la petite plaque sur le trousseau de clés. Si advenant malheureusement le cas que la personne perd ses clés, quand la personne retrouve le trousseau, n'a qu'à appeler au numéro sans frais qui est sur la plaque porte-clés ou tout simplement déposer le trousseau de clés dans une boîte postale.
Dans une boîte. Ça, c'est le temps qu'il y en a encore. Si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas.
Oui, oui.
Alors, donc, si je peux en parler, je vous dis, parce que ça m'est déjà arrivé. J'arrive chez moi et je ne trouve pas mon trousseau de clés et j'ai fait tomber mon trousseau de clés et je ne sais plus où. Eh bien, effectivement, il m'est revenu quelques jours plus tard grâce aux amputés de guerre, grâce aux plaques, parce que j'ai toujours cette petite plaque maintenant que j'accroche religieusement. Alors, évidemment, pour la recevoir, il faut vous donner un don.
Non, mais en fait, c'est un service qui est à la base gratuit.
Okay.
Nous, on a seulement on peut vous l'envoyer là, sans frais, mais c'est certain qu'on n'est pas un organisme subventionné par le gouvernement. Donc, on accepte avec joie les dons parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est certain qu'un enfant amputé change souvent de prothèse.
Mais oui.
Ça amène des coûts. Donc, du fait qu'on n'est pas subventionné par le gouvernement, c'est très, très apprécié de recevoir des dons.
Bien sûr.
Donc, c'est un service, comme je dis, qui est à la base gratuit. Donc, si vous voulez en commander, c'est très, très simple. On a un formulaire en ligne sur le site des amputés de guerre qui est le www.amputésdeguerre.ca ou sinon le numéro sans frais. Nos lignes sont toujours ouvertes au 1-800-250-3030. Puis à ce moment-là, on va vous envoyer avec plaisir des plaques porte-clés.
Alors attendez, je vais le redire tout doucement. Dans le 1-800, c'est le 250... Pardon,
0 250 250-30-30.
250-30-30 dans le 1-800 quand on veut plus amples informations ou encore via le site internet. De façon, si on fait amputé de guerre, j'imagine, en allant googler ça, on trouve ça très, très, très facilement.
Oui, oui, effectivement.
Mais écoutez, Cynthia Amel Gamache, je rappelle que vous êtes la porte-parole pour la campagne porte-clé des amputés de guerre. Bravo, bravo de rendre ainsi à la société et de rendre ainsi à cet organisme qui vous a si bien supporté, vous et tant d'autres.
Mais merci à vous.
Je vous en prie, passez une belle journée, Cynthia.
Au revoir.
Au revoir. Par actualité régionale, stationnement pour handicapés, une mère de Saint-Constant déplore le manque de civisme. Tasmin Ismail ne sait plus quoi faire pour empêcher les conducteurs d'utiliser illégalement les places réservées aux personnes handicapées, écrit David Penven dans Le Reflet. Le scénario se répète chaque fois que cette mère de famille et son fils de 19 ans, atteint de paralysie cérébrale, effectuent des emplettes dans des commerces de la région. Ces places sont occupées par des personnes qui n'ont pas la vignette, délivrée par la Société de l'assurance automobile du Québec. Elles restent dans leur véhicule attendant que leur conjoint termine leur commission. Il y a un manque de civisme, déplore la résidente de Saint-Constant. L'Association des personnes handicapées de la rive sud-ouest, l'APHRSO pour l'acronyme, reçoit régulièrement ce type de plainte. Des personnes qui vivent ces inconvénients se font souvent répondre « Je me suis stationnée là parce que j'en ai pour 2 minutes. » Ou encore, « Je pars juste chercher du lait, je reviens. » Et c'est ce que rappelle la directrice de l'APHRSO, Nancy Côté. Les gens à mobilité réduite se stationnent à cet espace qui leur est réservé, non pas parce qu'elles sont pressées, mais pour leur sécurité, ajoute-t-elle. Peu après avoir pris en photo Mme Ismail et son fils dans un centre commercial à Saint-Constant, Le Reflet a pu voir, en l'espace de quelques minutes, 2 véhicules sans vignette se garer dans ces espaces réservés aux personnes handicapées et le conducteur d'une des voitures, moteur en marche, attendait que son ami revienne de ses commissions. La régie intermunicipale de police rappelle que les personnes stationnées sans vignette s'exposent à un contrat d'infraction de 100 $ plus des frais pour un total de 169 $. L'église de Lac-aux-Saumont se transforme en centre communautaire. La municipalité de Lac-aux-Saumont a obtenu du financement de la part des gouvernements fédéral et du provincial pour transformer l'église Saint-Edmond en centre multifonctionnel. Le projet se réalisera au coût de 1,8 million de dollars. Ottawa a annoncé vendredi un financement de 500 000 dollars pour le projet. Québec participera également à la hauteur de 1,2 million, selon le maire de Lac-aux-Saumont, Michel Chevary. Dans le cadre des rénovations, les bancs de l'église seront retirés, une scène sera ajoutée, de même que des toilettes. Une montée pour personnes à mobilité réduite et un ascenseur menant au sous-sol sont également prévus. Le maire affirme que le centre pourra accueillir jusqu'à 400 personnes lors d'une réception, par exemple. Malgré sa transformation, le bâtiment restera en partie un lieu de culte. Ce qui est bien important de savoir, c'est que le lieu de culte va toujours exister à l'intérieur. Par contre, la fabrique de Saint-Edmond va être en location. Donc, s'il y a d'autres religions qui veulent intégrer le bâtiment, il n'y a pas de problème de dire « Monsieur le maire ». Bon, on s'en va maintenant à l'organisme. On parle aujourd'hui d'un organisme. Nous avons déjà d'ailleurs évoqué cet organisme-là. On l'appelle l'APDITED. J'espère que j'ai bien prononcé. C'est l'Association des parents pour la déficience intellectuelle. Il est trouble envahissant du comportement. Et je dois avoir à l'autre bout du fil Isabelle Mollier. Bonjour Isabelle.
Bonjour Clotilde.
Isabelle, rappelez-nous, vous êtes quoi, chargée de com là-bas ou...
Moi, je suis coordonnatrice donc de l'APDITED, l'Association de parents pour la déficience intellectuelle et pour l'envahissement du développement.
D'accord. Alors, il va y avoir un nouvel atelier que vous allez offrir et c'est d'ailleurs le sujet de notre conversation du jour et c'est un atelier qui sera offert aux parents. Juste avant, rapidement, rappelez-nous la mission de votre organisme. Des fois qu'il y ait des gens qui vous entendraient pour la première fois, Isabelle, et qui ne sauraient pas exactement ce que c'est.
Et nous, à l'habitude, nous faisons de la défense de la motion.
Oups, Isabelle, Isabelle, je vous perds. Vous savez ce qu'on va faire? On va mettre un petit peu de musique, on va raccrocher et on va vous rappeler pour essayer d'améliorer cette communication. D'accord? Alors, raccrochez, on vous rappelle tout de suite. Alors Isabelle, je pense qu'on vous a retrouvé. Alors votre donc la mission de cet organisme, s'il vous plaît. Ah non, on a vraiment un problème. On a vraiment un problème, pauvre de vous. Je ne sais pas si vous est-ce que vous êtes sur un cellulaire ou sur une ligne fixe, Isabelle. Ah, on vous a perdu complètement. Écoutez, Isabelle, je pense qu'on va vous rappeler, on va mettre, parce que là, j'ignore complètement ce qui se passe. Ce qu'on va faire, c'est que je vais demander à Martin Forgue, à notre recherchiste, qu'il recommunique avec vous. Et puis, on aimerait beaucoup vous entendre sur l'Abdited et sur cette nouvelle formation qui va exister conjointement avec le parrainage civique Les Marronniers. Et formation Alter Ego. Alors, on va vous rappeler un de ces jours, chère Isabelle, comptez sur nous. Actualité régionale encore, c'était dans la tribune « Le mérite sportif de l'Estrie, inspiré à continuer ». Nous sommes à Sherbrooke et c'est Charles Baudouin de la tribune qui écrit. Elle organise la course des 1000 pattes depuis bientôt 5 ans. Elle a porté les couleurs de l'Estrie en tennis aux Jeux du Québec l'été dernier et elle a complété son premier triathlon, quelques semaines plus tard. Malgré le fait qu'elle n'ait que 14 ans et qu'elle soit atteinte d'une maladie auto-immune extrêmement rare, Abigail Walker est mûre pour plusieurs autres défis. La Sherbrookoise a d'ailleurs invité les quelques 500 convives rassemblés à l'hôtel Delta de Sherbrooke à lui lancer des défis à réaliser au cours des prochains mois et des prochaines années, après avoir été nommée coup de cœur du gala annuel du mérite sportif de l'Estrie, mercredi. Je suis très honorée, c'est sûr qu'avec tout ce que j'ai fait, ça inspire beaucoup de gens, mais qu'on ait pensé à moi, c'est wow. Ça a été une année chargée, mais un prix comme ça, ça m'encourage à continuer. C'est grâce à ces défis-là que je peux me battre contre la maladie et je peux y arriver grâce aux gens qui m'entourent, au soutien qu'ils me donnent et à l'adrénaline que ça donne, parce que j'aime ça quand ça bouge, a mentionné celle qui souffre de polychondrite chronique récidivante. Je suis contente de voir que la communauté estrienne a vu en Abby quelqu'un d'inspirant. Je suis tellement fière d'elle, a exprimé sa mère, Myriam Ruel. Outre le prix coup de cœur, le mérite sportif de l'Estrie a remis 14 trophées Victor mercredi. Pour une deuxième année consécutive, José Bélanger et Alex Boisvert-Lacroix ont respectivement été nommés athlètes féminines et athlètes masculins de niveau international. José Bélanger a aidé le Canada à remporter une médaille de bronze en soccer lors des derniers Jeux olympiques, tandis qu'Alex Boisvert-Lacroix a notamment récolté une médaille de bronze lors du championnat du monde de patinage longue piste sur 500 mètres, en plus de réussir 4 podiums en Coupe du monde de 2016. « Par actualité nationale, maintenant, un hiver difficile pour les personnes à mobilité réduite. Chaque hiver, de nombreuses personnes handicapées vivent un véritable cauchemar lorsque vient le temps de se déplacer. Certaines personnes sont contraintes de rester chez elles pendant des jours, voire d'annuler des rendez-vous médicaux car elles sont incapables de sortir de leur domicile. Depuis la tempête du 13 février qui a apporté 29 cm de neige dans la région, André Jobin, un résident de la rue Montfort à Ottawa, n'est même pas sorti de chez lui. Il n'a même pas pu se rendre à son dernier rendez-vous chez le médecin. Il ne peut pas sortir, c'est impossible. Les gens handicapés en fauteuil roulant, marchette, canne ne peuvent pas sortir. C'est eux qui sont punis. Moi, je le sais parce que mon mari ne peut pas se déplacer. C'est impossible, raconte son épouse Ginette. Après avoir fait une mauvaise chute sur un trottoir glacé le 21 décembre, André Jobin s'est brisé la hanche. Il s'est retrouvé en fauteuil roulant. Aujourd'hui, il déplore que la ville n'en fasse pas plus pour déneiger et déglacer les trottoirs. Si la ville avait fait l'entretien, j'aurais pu sortir, mais il coupe. C'est la raison pour laquelle j'étais pris dans la maison une semaine de temps. C'est assez pour devenir fou. À Gatineau, les défis sont les mêmes, selon la directrice générale du regroupement des associations de personnes handicapées de l'Outaouais, Monique Baudouin. Elle estime que le mauvais déblayage cause des problèmes d'isolement, de sécurité et de transport. À Ottawa et à Gatineau, on affirme qu'outre le transport adapté, il n'existe pas de mesures particulières liées à l'entretien des trottoirs pour accommoder les personnes à mobilité réduite. Même en cas de tempête, les deux municipalités n'offrent aucun service supplémentaire. L'ultime recours reste d'appeler le 311 pour signaler une situation d'urgence. Handicap International dresse le bilan de ses 20 ans au Sénégal. Handicap International a rappelé jeudi avoir conduit plus de 40 projets en 20 ans de présence au Sénégal, dont la moitié concerne la Casamance, qui est constituée des régions du Sud, à savoir Kolda, Chédiou et Ziguinchor. En 20 ans de présence au Sénégal, nous avons déroulé plus de 40 projets, dont la moitié a été axée en Casamance, qui est la première zone d'intervention de notre structure dans le pays, a dit Catherine Gillet, la directrice du programme Afrique Cap-Ouest de cette organisation de solidarité internationale. Elle intervenait à une cérémonie marquant le 20e anniversaire de la présence de Handicap International au Sénégal, en présence des autorités administratives, de responsables d'associations d'aide aux personnes handicapées et de l'Union régionale des organisations de personnes handicapées de Ziguinchor. C'est la Casamance qui a reçu les premières interventions de Handicap International dans un contexte de conflit avec tous les besoins d'accompagnement que cela suscitait à l'époque, a-t-elle dit. Madame Gillet fait allusion aux victimes des mines en Casamance, ce qui a conduit, selon elle, à la mise en œuvre du programme Afrique Cap-Ouest qui couvre la Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Handicap International doit s'adapter au nouveau contexte de la géopolitique mondiale marqué par le désengagement de plusieurs partenaires financiers si elle veut mener à bien ses missions. Il est très difficile maintenant de trouver des financements, mais nous notons heureusement qu'il y a en Afrique de plus en plus d'initiatives privées et publiques qui sont très importantes, notamment au Sénégal, de la part des pouvoirs publics et de la société civile, a expliqué Catherine Gillet. Elle salue le changement d'attitude et de comportement de l'État, des collectivités locales et du public envers les personnes qui vivent en situation de handicap. Handicap International se présente comme une association à but non lucratif, sans affiliation politique ou confessionnelle. Créée en 1982, elle intervient, nous rappelle-t-on, dans cet article, qui émane d'ailleurs d'Handicap International, dans des zones en situation de pauvreté, d'exclusion, de conflit et de catastrophe, en venant en aide aux personnes handicapées et aux populations vulnérables. Et puis international, toujours, nous sommes à Briançon, en France. On nous présente Arthur, ou la rage de vaincre le handicap. Arthur Blanchet est atteint d'une maladie génétique rare, la paraparésie spastique. Ça ne l'empêche pourtant pas d'avoir de grands projets. Il vient d'être intégré dans un groupe de la Fédération française de handiski et il rêve déjà d'être champion paralympique. Le sourire raccroché au visage, deux grands yeux bleus confiants et un optimisme à toute épreuve. Arthur accumule aujourd'hui les podiums et s'impose sur les circuits. Alors on lui demande d'abord qu'est-ce que la paraparésie. je vais le redire, la paraparésie spastique et quels en sont les symptômes? Eh bien, il s'agit d'une maladie dégénérative qui atteint ma moelle épinière. De répondre ce jeune Arthur, elle provoque beaucoup de crampes, de douleurs, de raideurs et de tremblements incontrôlables dans mes membres inférieurs. Il dit que tout petit déjà, il marchait sur la pointe des pieds alors qu'il adorait le sport. Il faisait du foot, du handball et du ski, mais il avait de plus en plus mal, de plus en plus souvent, parfois à ne plus pouvoir se lever. Et vers ses 11 ans, il a commencé ses premiers traitements qui ne soulageaient que les symptômes. Il avait malheureusement tous les désagréments des effets secondaires sans amélioration et à 14 ans, il a été déscolarisé presque toute l'année. Il dit « J'essayais d'aller au cours en fauteuil roulant lorsque c'était supportable. Ma mère ne travaillait presque plus et ils ont décidé qu'il fallait prendre en charge ce garçon qui a toujours souffert le martyr mais qui n'a jamais lâché le sport. » Et aujourd'hui, il est donc licencié en ski dans une équipe de ski. Et il dit que moralement, il va toujours très bien, que parfois il a souffert d'être incompris parce que la douleur, ça ne se voit pas toujours. Ne pas marcher, dit Arthur, c'est pénible, mais la douleur, c'est l'enfer. Mes parents sont toujours restés très proches. J'ai surtout une famille qui m'a beaucoup soutenu, aidé, et s'est toujours rendu disponible. Je me suis toujours dit, tu vas retrouver l'usage de tes jambes et courir à nouveau. Je ne me voyais pas baisser les bras. C'était d'après un article de Valérie Merle. Quelques rafales maintenant. Le regroupement des handicapés visuels des Laurentides vous rappelle que ce regroupement offre des ateliers, des cours de yoga, des visites à domicile, des rencontres, des jeux adaptés, simplement des partages, du partage et de l'écoute. Alors, devenir membre du RHVL, donc du regroupement des handicapés visuels des Laurentides, c'est partager, c'est se divertir avec des personnes qui ont vécu des situations similaires à la vôtre et qui maintenant ne vivent plus de l'isolement. Si vous êtes intéressé, pourquoi pas? Allez, vous n'avez qu'un coup de fil, qu'un numéro de téléphone à noter, c'est le 450-432-9689. 450-432-9689. Le gala anniversaire de la 40e année de la FADOC. Nous sommes à Saint-Rémy et la 25e édition des Jeux des aînés. Au souper et spectacle, il y aura nul autre que Grégory Charles le samedi 17 juin dès 17h au complexe sportif Robert Lebel sur le boulevard Simard. À Chambly. Pourquoi je vous ai dit à Saint-Rémy? Parce que ça devait être écrit comme ça, quelque part, dans le papier. Les clubs ont priorité jusqu'au 24 février et ensuite ce sera ouvert au grand public. Donc, si vous faites partie d'un club qui dépend de la FADOC, vous pouvez toujours acheter vos billets au 450-454-2450. 450-454-2450 pour aller voir Grégory Charles le 17 juin prochain. Et puis, Parkinson Rive-Sud organise une conférence sur le thème « La sexualité au-delà des préjugés » le 28 février prochain à 13h30 à la maison de la famille Le Cavalier au 20-27A. Longueuil, 2027 rue Daniel, pardon, à Longueuil. C'est présenté par Joanne Ductan-Petit, qui est sexologue et qui vient de finir ses études en sexologie à l'UQAM. Voilà, c'était Clotilde Seille au Par Actualité. Merci d'avoir été là et merci à toute mon équipe. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à demain, 11h30.